Seigneur notre Dieu, depuis tant d'années, nous avons pu bénéficier du ministère de Marc, pasteur, que nous voulons te remercier. Nous voulons te confier, te demander de veiller sur lui, sur sa santé, et puis aussi sur tout ce qu'il va nous donner encore aujourd'hui et encore plus tard, même s'il n'est plus le pasteur en titre de notre Église. Et nous voulons simplement te remercier, Seigneur, pour les soins que tu as accordés à cette Église depuis tant d'années. Et parmi tous ces soins, il y a la place que Marc y a pour. Merci, Seigneur. Merci de bénir.
Amen. D'habitude, on dit Amen à la fin de la prédication. Là, je le dis au début, je le dis à la prière de Jean-Pierre, aux paroles de Cathy. C'est vrai que ce n'est pas sans émotion de terminer 35 années ou 34 années de ministère pastoral dans la même église, dans cette église. J'aimerais relier un peu ce que je souhaite vous dire ce matin à deux textes de l'Évangile, de cette magnifique histoire de Noël que l'on trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 2. Ce sont deux interventions ou deux prières de deux personnes tout à fait différentes. L'une, eh bien, c'est Marie. Marie, c'est Luc chapitre 1, pardon, chapitre 1er, au verset 46, à l'annonce de ce que l'ange lui a dit concernant la naissance du fils qu'elle allait porter et mettre au monde, cette prière qu'on appelle Magnificat, que Bach a mis magnifiquement en musique, et qui s'appelle Magnificat parce que magnifier, exalter, c'est le premier mot de cette prière en latin, mais dans nos traductions, c'est Marie dit, verset 46 du chapitre 1er de l'Évangile de Luc, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Et puis, la deuxième prière, c'est celle de Zacharie, qu'on trouve un petit peu plus loin, au verset 67. Au moment où naît son fils, Zacharie était âgé. Les prêtres prenaient leur retraite à 50 ans. Mais à cette époque, à 50 ans, on était déjà bien âgé. Et Zacharie ne pouvait pas avoir d'enfant, sa femme était stérile. Et voilà que Dieu leur donne un fils, le dernier grand prophète de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, qui précède bien sûr et qui va préparer le chemin du Seigneur, le chemin de Jésus. Et au moment de la naissance de Jean-Baptiste, il retrouve la parole, puisqu'il a été muet pendant la grossesse de sa femme. Rempli d'Esprit Saint, au verset 67, prophétisa en ces termes, « Béni soit le Seigneur ». C'est le Bénédictus, parce que « Béni soit le Seigneur », ça commence par « Bénédictus » en latin. Le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ces saints prophètes depuis des siècles. Alors, gardez votre Bible ouverte, parce que nous continuerons la lecture de ces deux textes au fur et à mesure de cette prédication que j'aimerais relier à mon propre témoignage personnel. Alors d'abord, je crois que ce texte, ainsi qu'en ce qui me concerne, nous parle de reconnaissance. Reconnaissance pour ce que Dieu fait ou pour ce que Dieu a fait. Au verset 48, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Marie reconnaît être une simple jeune fille, servante, disponible au Seigneur. Et puis Zacharie, lui aussi, a des mots de reconnaissance lorsque il dira que Dieu a fait miséricorde, il s'est souvenu de sa sainte alliance, il a visité et racheté son peuple. Et la reconnaissance est un sujet de louange et de joie à la fois pour Marie et pour Zacharie. Alors, j'aimerais aussi dire toute ma reconnaissance au Seigneur d'avoir été, comment dire cela, choisi par Dieu pour accomplir un ministère pastoral au sein de cette Église. Jamais dans mon enfance, dans ma jeunesse, dans mon adolescence et dans ma jeunesse jusqu'à l'âge de 28 ans, je n'avais songé à devenir pasteur. Je voulais servir Dieu. Je voulais que le Seigneur dirige ma vie. Mais jamais l'idée d'être pasteur ne m'avait traversé l'esprit. Aussi, je ne m'étais jamais préparé pour cela. J'ai devant les yeux une lettre que je crois André avait écrite le 23 décembre 1973. À l'époque, nos églises, qui étaient moins nombreuses que maintenant, de l'association baptiste, envoyaient une lettre aux autres églises à l'occasion de la nouvelle année, en souhaitant les vœux, puis en donnant quelques nouvelles et en proposant quelques sujets de prière. C'était l'habitude qui s'est perpétuée comme cela quelques années, mais qui s'est un peu perdue aujourd'hui. Et dans cette lettre du 23 décembre 1973, dont je vous lirai tout à l'heure un extrait particulier, André donne donc des nouvelles de l'église de Villefranche. Et où étais-je, moi, personnellement, le 23 décembre 1973 ? Je crois qu'il y a une personne ici qui s'en souviendra, c'est Simone. Parce que à Noël 73, je me suis retrouvé dans un château de la vallée de Münster, en Alsace. Et j'étais à cette époque très amoureux d'une jeune fille alsacienne que j'avais rencontrée à Paris. Et je participais en tant qu'organisateur à un camp de formation de jeunes, un camp d'exhortation, enfin comme il y en a beaucoup dans nos milieux évangéliques, et cela se passait en Alsace, dans la vallée de Münster. Et voilà que René, que vous avez connu, est venu nous rendre visite. Donc elle était parisienne à l'époque, mais elle était rentrée dans sa famille pour Noël à Colmar. Et Simone, qui avait une petite 104, je crois, à l'époque, l'avait véhiculée, s'était venue nous rendre visite dans ce château pendant ce camp. Et je ne sais trop pourquoi, on est allé faire une balade dans la voiture de Simone. Il y avait de la neige, les routes étaient un peu dangereuses, et j'étais très heureux d'être coincé à l'arrière de cette voiture, dans une petite 104. Nous étions trois à l'arrière, au milieu. À ma droite, il y avait René, dont j'étais très amoureux, mais je ne lui avais pas encore déclaré ma flamme. À ma gauche, je ne sais plus qui était là, et devant, il y avait quelqu'un, mais il y avait aussi, je crois, Mike Evans qui était là, je ne sais pas s'il était à côté de moi ou devant. Enfin, nous étions cinq, donc moi, j'étais très heureux d'être coincé là, à l'arrière. Et c'était un moment merveilleux, magnifique, d'être côte à côte avec René. Et c'est simplement quelques semaines après que je lui ai proposé, enfin, qu'on se connaisse un peu mieux, et puis on s'est mariés d'ailleurs à la fin de l'année 74. Et voilà que le 23 décembre 73, André, mais c'est signé l'Église, hein, mais je pense que c'était André, hein, termine cette lettre de nouvelle par ces mots. Nous vous suggérons de porter avec nous un fardeau, celui d'un ministère qui s'exercerait à Villefranche à plein temps. Cette réalité n'a jamais été vécue à Villefranche, où des chrétiens se réunissent pourtant depuis le début du siècle. Nous pensons que malgré l'adversaire et malgré les handicaps de toute nature, le Seigneur peut le donner. Comptons sur lui, avec vous, pour le progrès de l'Évangile dans le monde et dans nos propres cœurs. Et je crois que mon histoire à Villefranche a commencé à ce moment-là, au moment où l'Église a prié et au moment aussi où je me suis retrouvé avec René pour ensuite me marier avec elle. Et à la fin d'une année de mariage où nous avons plus vu notre vie avec, enfin en tout cas ce qui me concernait, avec Opération Mobilisation dans la région parisienne. C'était un centre de formation pour des jeunes dans l'évangélisation, dans l'aide apportée aux églises. Nous nous sommes retrouvés à Villefranche à la fin de l'année 75, officiellement au 1er décembre 1975. Alors je crois que dans ma vie, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer différentes personnes sur ma route qui ont été très importantes dans mon ministère pastoral et dans la vocation que le Seigneur m'a adressée. Mais je crois que ce qui compte avant tout, avant de vous parler de quelques-unes de ces personnes, ce qui a compté avant tout, je crois que c'était ma conversion à l'âge de 16 ans et demi, où le Seigneur m'a mis au pied du mur. Et je crois que l'expression n'est pas trop forte. Et c'est comme s'il me disait, alors il ne me l'a pas dit avec ces mots, mais la façon dont je vous l'interprète maintenant, je crois, correspond à la réalité. C'est comme s'il m'avait pris par le cou, il m'avait collé contre le mur, il m'avait dit, maintenant, il faut que tu te décides, que tu choisisses, soit que tu me donnes ta vie, soit que tu la fais qu'on porte ensemble, puisque je m'étais dit peut-être que je pourrais très bien être chrétien tout en vivant une vie pour moi-même aussi, sans trop m'engager pour le Seigneur. Mais le Seigneur, en me mettant au pied du mur, me disait, voilà, maintenant tu choisis. Soit que tu décides de me donner entièrement ta vie, soit que tu gardes une partie pour toi et tu me donnes une partie, mais je veux que tu me donnes une réponse. Et à vrai dire, je n'avais pas tellement le choix. Je n'avais pas tellement le choix parce que je me sentais quand même pressé par le Seigneur. Et je dis, bien oui Seigneur, voilà, je te donne ma vie. Faisant ce que tu veux, je me mets à ta disposition. Et je crois que c'était un moment important qui a non seulement compté dans ma vie, mais qui était important pour Dieu lui-même, pour qu'il sache vraiment si j'étais prêt à le suivre là où il m'enverrait jusqu'au bout. Et je crois que c'est ce qu'il fait un peu avec chacun d'entre nous. Et j'aimerais ici adresser cet appel aux jeunes, mais peut-être aussi aux moins jeunes. Pourquoi attendre ? Le Seigneur nous demande de nous donner entièrement, complètement, à 100% à lui. Et je crois que c'est important de lui donner une réponse et ne pas garder même quelque chose dans le fond de son cœur, mais de lui dire, eh bien oui Seigneur, je me donne à toi. Ma vie ne m'appartient plus, elle t'appartient à toi, fais-en ce que tu veux. Et je crois que c'était comme cela qu'ensuite le Seigneur a pu faire de moi ce qu'il a voulu faire. Alors, il a mis, c'est vrai, sur ma route différentes personnes. D'abord un oncle qui était pasteur en Suisse et avec qui je suis allé à plusieurs reprises dans mon adolescence, chez qui j'étais allé passer quelques vacances. Et je l'accompagnais dans ses réunions de semaine, dans ses visites aussi, auprès surtout de personnes âgées. Et cela, je crois, m'a influencé, m'a montré ce que c'était qu'un travail de visite pastorale. Et je me suis longtemps souvenu un peu de ces visites qui étaient pour moi assez, assez forte, qui me laissait une impression assez forte. Et je me souviens même qu'une fois, nous étions chez une personne âgée. Je me souviens encore de son nom. Une personne qui devait avoir dans les 90 ans, qui était très maigre, presque transparente. C'était un peu comme une radio. Quand on voyait sa main, on voyait presque les os à travers la main, tellement il était maigre. Mais il avait une vitalité, une flamme dans les yeux qui était extraordinaire. Et avec mon oncle, j'étais là chez lui. Et un jour que j'étais chez lui, il a proposé à mon oncle de m'imposer les mains pour me consacrer au Seigneur. Bon, moi je me suis laissé faire. Et je crois que c'était aussi comme dirigé par le Seigneur, comme je l'ai pris, comme en tout cas un acte de consécration au Seigneur. Voilà une personne donc qui m'a influencé et qui a été aussi qui est déterminante pour ma conversion dont je viens de vous parler. Une autre personne qui a aussi une importance dans ma vie, c'était Mike Evans, qui m'a fait connaître l'œuvre de Dieu, les églises évangéliques, et que j'ai rejoint ensuite à Paris, lorsque il est devenu le directeur d'opération mobilisation. Il n'y avait pas de bureau ou d'œuvre à Paris, en France, à ce moment-là. C'est lui qui l'avait lancé, il m'avait demandé de le rejoindre, ce que j'ai fait quand j'ai eu mon bac et que j'ai pu ensuite aller à Paris. Alors, pour un nordiste, aller à Paris, c'était découvrir la capitale, hein, c'était quand même quelque chose d'assez important aussi. Une autre personne ensuite, bien sûr, aussi, c'était René, qui a eu un rôle, je crois, très important, si ce n'est essentiel, dans la suite des événements et dans le ministère pastoral que nous avons vécu ensemble dans cette église. Et je crois que ces rencontres ont été vraiment déterminantes parce que le Seigneur avait ainsi préparé le chemin, sans me préparer par des études de théologie ou de formation biblique. Alors, comme je vous ai dit, quand je suis arrivé à Villefranche, je ne pensais pas du tout, et ce n'était pas dans le but, d'être le pasteur de l'église de Villefranche. C'était pour mettre sur pied et pour diriger une équipe d'évangélisation. Et là, une autre personne qui a été très déterminante aussi dans ma vie, c'est au moment où nous, avec René, nous pensions ne plus continuer avec Opération Mobilisation, où nous cherchions notre voie. J'avais une licence d'anglais en poche et j'avais écrit à différents établissements scolaires. Je me souviens même avoir écrit à des lycées agricoles de la Creuse. Alors pourquoi la Creuse? Tout simplement parce que j'avais entendu dire qu'il y avait très peu de chrétiens en Creuse. Alors il y avait très peu de personnes aussi en Creuse. Il y avait très peu de chrétiens en Creuse et je m'étais dit, il faut aller là où il y a peu de chrétiens. D'ailleurs, l'idée de René, qui était alsacienne, c'était de dire qu'il fallait que les chrétiens alsaciens quittent l'Alsace, parce qu'il y a trop de chrétiens évangéliques en Alsace, il faut qu'ils aillent s'installer ailleurs. Alors, j'avais écrit à des établissements en Creuse pour être prof d'anglais, et puis ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché, je n'avais pas pas beaucoup insisté. Mais j'avais surtout aussi rencontré une personne qui a été déterminante, c'était, beaucoup s'en souviennent ici, Broyens Berg, Monsieur Berg, hein, qui a eu aussi, je pense, une influence sur cette église par des conférences qu'il venait donner ici. Il était pasteur à Bruxelles et à Paris, je l'avais rejoint d'ailleurs même à Bruxelles, où il m'a parlé de Villefranche. Alors Villefranche, je ne savais absolument pas du tout où c'était. Hein. J'aurais peut-être traversé Villefranche, parce qu'à l'époque, quand on allait dans le Midi et qu'on ne prenait pas l'autoroute, on traversait la rue Nationale sans s'en rendre compte, hein. Et il m'avait parlé de Villefranche et du désir d'aider cette église avec une équipe d'évangélisation. Voilà un peu comment, moi qui étais un peu dans le coup des équipes d'évangélisation au travers toute la France, voilà, il m'avait proposé cela avec un financement de l'association Baptiste. Alors je viendrai d'abord une année en couple. On préparerait le terrain, ensuite on aurait une grande équipe d'évangélisation l'été, ce qu'on a eu, été 75, et ensuite il y a quelques-uns de ces équipiers qui resteraient pendant une année pour continuer le travail de suite, et voilà comment je suis arrivé à Villefranche. Mais au bout d'une année, sans que je m'y sois préparé, sans que je m'en rende compte, dans une assemblée générale, mais il n'y avait pas beaucoup de monde, l'Église m'a demandé si je voulais être son pasteur. Et tout naturellement, j'ai dit oui, sans peut-être me rendre compte de ce que cela signifiait. Mais voilà comment je suis devenu le pasteur de cette église. Les études de théologie ou les études bibliques ont suivi par la suite, et le Seigneur a pourvu. Je crois que le Seigneur a pourvu non seulement par ses rencontres, mais aussi par le fait que j'apprenne et que j'ai une certaine maîtrise de la langue anglaise, parce que j'ai beaucoup reçu aussi de la littérature évangélique anglaise. Alors c'est un petit peu cela qui m'a déterminé à faire des études d'anglais, parce que j'ai visité l'Angleterre pour la première fois aussi à l'âge de 16 ans, et j'ai découvert la richesse du monde évangélique anglophone. Et surtout l'abondance de littérature anglaise. Il y avait à cette époque peu de littérature évangélique française. Il y en a encore peu aujourd'hui, quand on le compare un peu au monde anglo-saxon. Et le fait d'avoir ainsi pu maîtriser la lecture de l'anglais m'a beaucoup aidé dans ma formation personnelle et dans la nourriture spirituelle dont j'avais besoin surtout à cette époque. Alors je veux remercier Dieu pour sa fidélité. Sa fidélité qui implique aussi la foi et la confiance en Dieu. Et je crois que je peux dire qu'au cours de ces 35 ans, Dieu a été d'une fidélité extraordinaire. Dieu a pourvu, alors qu'on croyait parfois que les finances, surtout, parce que c'est le nerf de la guerre, et il faut bien payer un pasteur si on a un pasteur, ou alors il faut qu'il cherche un autre boulot. Et quand on croit que les finances sont l'handicap majeur, Dieu a permis que l'argent arrive et que nous puissions ainsi continuer. Et ça a été vrai pour mon salaire pastoral, qui a toujours été payé. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de... l'Église n'a jamais fait défaut en ce qui concerne le versement de mon salaire pendant ces 35 ans. Et lorsque l'Église s'est retrouvée toute seule à devoir payer mon salaire sans aide de l'association baptiste, ça a été un acte de foi quand même assez gigantesque, parce que l'Église était petite, mais toujours le Seigneur a pourvu. Et ce moment où l'Église n'a plus reçu d'aide de l'association baptiste est venu lorsque nous avons reçu le legs, quand nous avions vendu la première maison des frères Morel, puisqu'il y a eu une deuxième maison que nous avons vendue par la suite et qui nous a permis de financer aussi une partie de ce bâtiment. Et l'Église s'est retrouvée avec une certaine somme d'argent, mais dans le but, parce que déjà à cette époque, je crois que le premier jour où j'ai mis les pieds dans l'église de la rue Boiron, je me suis dit, il faut absolument qu'on change de local. Mais ça faisait il y a 35 ans. Et depuis ce jour, nous avions reçu l'argent de la vente de cette maison. Nous voulions le mettre de côté pour pouvoir financer un autre bâtiment. Mais nous devions puiser un peu dans ce capital, parce que nous n'arrivions pas tous les mois à joindre les deux bouts. Mais le Seigneur a pourvu et le Seigneur a honoré cet acte de foi. Et lorsque nous avons construit aussi ce bâtiment, nous n'avions pas bien sûr tout l'argent. Il a fallu compter sur les uns et les autres, mais aussi compter sur le Seigneur. Et je crois que c'est comme cela que le Seigneur aussi, non seulement nous forme, mais nous permet aussi de vivre avec lui et de compter sur lui. Et cela a été mon témoignage pendant ces 35 ans, la fidélité de Dieu, mais la fidélité parce que nous avions besoin de l'aide du Seigneur pour pouvoir vivre et même pour pouvoir survivre. Nous dépendions de Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit qu'Abraham partit sans savoir où il allait. Quand je suis arrivé à Villefranche, je ne savais pas si c'était pour 2-3 ans. À l'origine, c'était un peu ça, faire de l'évangélisation pendant quelques années, puis ensuite faire autre chose, et puis laisser l'Église un petit peu ensuite continuer la route sans nous. Abraham partit sans savoir où il allait. Dieu a donné aussi à Joseph et Marie une mission, sans trop savoir non plus ce qui allait arriver. Ils ont dû fuir, ils ont dû partir en Égypte, et ensuite la vie ne devait pas être toujours facile. Mais le Seigneur a été fidèle, et je crois que s'il l'a été, il le sera aussi dans l'avenir. Puis la deuxième chose que j'aimerais souligner de ces deux textes que j'ai lus, c'est que à la fois Marie et Zacharie ont une vision pour l'avenir de leur peuple Israël, et même l'avenir du monde. Au verset 52, « Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé à vide les riches. » Ce n'est pas vrai de façon définitive, c'est tout un programme. Et ce programme ne sera réalisé que lorsque Dieu établira pleinement son royaume sur la terre. Mais c'est déjà ce que Jésus a commencé de faire. Et c'est ce que l'Église doit continuer de faire. Et puis aussi avec Zacharie, au verset 78, « Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. » Oui, Jésus est la lumière. La lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme, mais cette lumière, elle est là encore aujourd'hui, pas seulement lorsque Jésus était sur terre, et elle sera là jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans sa gloire. Et c'est à nous aussi, en tant que peuple de Dieu, de refléter sa lumière pour indiquer la route, le chemin. Alors, quelle est notre vision? Quelle est la vision de notre Église? Il est clair que nous sommes donc les continuateurs de Jésus jusqu'à son retour en gloire. Mais comment vivons-nous notre vie personnelle et notre vie d'Église? Avons-nous toujours cette flamme, cette vision pour que nous soyons utilisés par le Seigneur comme lui le souhaite dans la perspective de son retour? Est-ce que nous vivons simplement au jour le jour? Parce que bon, il faut bien vivre au jour le jour, il faut bien travailler, prendre sa retraite, etc. Mais est-ce que nous vivons dans la vision du retour du Seigneur? Quelle est notre vision? Et deux textes me viennent à l'esprit en réponse à cette question. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, dans les premiers versets, nous avons l'appel missionnaire de l'apôtre Paul. Paul était le pasteur, on peut utiliser ce mot, avec d'autres responsables, d'autres anciens, de l'église d'Antioche. Et cette église était très très ouverte par rapport à l'église de Jérusalem, qui était plutôt fermée sur le monde juif, alors que l'église d'Antioche était très ouverte sur le monde païen, sur le monde extérieur. Et là, au cours d'un culte, d'un temps de prière, mais aussi de jeûne, Dieu dit, mettez-moi à part, Paul, il y avait Barnabas aussi, pour que je les envoie en mission. Et ils ont été les envoyés de cette église au cours de leurs différents voyages missionnaires. Et c'est comme cela que l'apôtre Paul, on pourrait dire le meilleur d'entre eux, est parti, se sentant envoyé par cette église pour aller apporter l'évangile au loin. Cette église avait reçu une vision missionnaire. Et c'est le message que Jésus laisse aux siens avant de monter au ciel. C'est le message de la Pentecôte. Allez par le monde entier pour annoncer l'évangile. Et si nous nous contentons simplement de vivre notre petite vie chrétienne personnelle au fond de notre cœur ou de notre petite vie d'église parce que nous sommes bien entre nous, je crois que nous ratons l'essentiel de ce qu'est la raison d'être de l'église. Car je crois que l'église doit être avant tout une église missionnaire qui va vers les autres. J'ai essayé de vous envoyer hier, mais je n'ai pas réussi, mais peut-être que je réussirai, mais vous pourrez le trouver sur le blog de Sébastien Fatt. Je vous ai déjà, vous qui êtes sur Internet, envoyé l'adresse de Sébastien Fatt, mais vous pourrez le retrouver. C'est un sociologue qui travaille au CNRS, et c'est chrétien évangélique, membre d'une église baptiste à Chauny, dans le nord de la France, une personne remarquable qui a écrit aussi pas mal d'ouvrages, qui est très précieux, non seulement dans le monde évangélique, mais je crois aussi en France, pour faire connaître le monde évangélique. Et sa dernière vidéo que j'ai découverte hier est extraordinaire. C'est une équipe d'évangélisation qui essaie de, donc en Angleterre je crois, qui essaie de trouver des moyens assez originaux pour évangéliser. Et ils ont fait venir une chorale de professionnels qui chantait, enfin une chorale habituée à chanter le Messie de Handel. Et ils sont allés dans une cafétéria avec, je crois, l'accord de la direction, et ils se sont joints à la foule, enfin à la queue de ceux qui allaient manger dans cette cafétéria. Et donc ils ont mangé dans la cafétéria à différents endroits de la cafétéria. Il y avait une musique d'ambiance, puis à un moment donné, sans que les gens se rendent compte de quoi que ce soit, il y avait la musique du Messie de Handel qui a commencé à se mettre en route. Et d'un côté, c'était filmé, d'un côté de cette cafétéria, il y a deux, trois personnes qui se sont levées de leur place, hein, et se sont mis à chanter le début du Messie de Handel, puis un petit peu plus, dans la foulée, à un autre endroit, deux, trois autres personnes sont mis à chanter, deux, trois autres personnes, deux, trois autres personnes, puis ensuite tout un chœur qui s'est mis à chanter ce Messie de Handel alors que les autres étaient en train de manger, tout étonnés de savoir ce qui se passait. Chose d'extraordinaire, formidable. J'espère que vous pourrez regarder cette vidéo, c'est vraiment extraordinaire. Voilà des moyens nouveaux pour faire connaître l'Évangile aujourd'hui, mais aussi peut-être au loin comme au près. Et peut-être mon regret, en tant que pasteur de ces 35 ans, c'était de ne pas avoir su suffisamment développer l'aspect, ou faire développer, puisqu'on n'est jamais tout seul dans une église, l'aspect missionnaire de notre église. Alors c'est vrai que nos moyens étaient petits, nos moyens financiers étaient toujours justes, mais je crois que c'est vital pour une église, non seulement d'évangéliser, de faire connaître l'évangile, mais aussi de faire connaître l'évangile au loin. Et cela nécessite, je crois, la prière. Parce que c'est Dieu qui agit. Alors, Dieu a répondu à la prière de ces quelques-uns ici en 73 qui ont dit, mais priez avec nous pour que Dieu nous envoie un pasteur. Ça ne s'était jamais fait, c'est vrai, à Villefranche. Et voilà, bon, ben, un peu comme, vous savez, quand les Israélites dans le désert demandent de la viande, ils en avaient un peu marre, ce qu'on peut comprendre, même si c'était un gâteau qui ressemble, la manne était un gâteau qui ressemblait à du miel, mais enfin, manger toujours la même chose matin et midi et soir, c'est jamais agréable. Ils ont demandé de la viande, et le texte nous dit, mais Dieu leur en donnait jusqu'à ce que ça leur en sorte par les narines, hein. Voilà, hein, jusqu'à ce qu'ils en aient trop, hein. Alors, voilà. Vous avez voulu un pasteur, ben vous l'avez eu pendant 35 ans, voilà. Bon. Alors, au moins maintenant, voilà, bon. Mais, c'est le Seigneur, je crois, qui a agi et qui a permis tout cela. Et je crois que Marie et Zacharie ont aussi eu cette vision de voir ce que Dieu allait faire dans l'avenir, jusqu'à la fin des siècles. Et ils citent tous les deux Abraham, ce qui est quand même extraordinaire. Marie cite Abraham au verset 55, « Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. » Mais Abraham, c'était 1500 ans avant Jésus-Christ. Et puis Zacharie parle aussi d'Abraham au verset 72. « Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. » Oui, Dieu agit dans le temps. Dieu même prend son temps. Et Dieu avait fait une promesse à Abraham et il a gardé cette promesse. Et puis la dernière chose que je veux souligner de ce texte, et peut-être aussi en ce qui concerne mon témoignage pastoral, c'est la miséricorde de Dieu qui est abondamment soulignée dans ce texte. Nous l'avons au verset 50, « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge ». Au verset 54, « Il s'est souvenu de sa miséricorde et au verset 78, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. Annie Sauve, tout à l'heure dans sa prière, a cité cette parole de Dieu au peuple d'Israël ou à Moïse qui manifeste la grandeur de la miséricorde de Dieu. Et Dieu dit qu'il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Il punit jusqu'à 3 ou 4 générations. Et je crois qu'effectivement, même de façon assez naturelle, on porte un peu les conséquences de nos actes 3 ou 4 générations. Parce qu'après, on oublie, ou ça s'estompe, ou il y a d'autres familles qui viennent. Mais on s'en souvient pendant 3 ou 4 générations. Mais la miséricorde de Dieu, nous dit Dieu, s'étend jusqu'à 1000 générations. Mais c'est Henri Blocher qui m'a fait remarquer dernièrement que 1000 générations, c'est pratiquement l'histoire de l'humanité, de toute l'humanité. C'est quoi une génération? Certains disent 40 ans. Alors si c'est 40 ans, ben c'est 40 000 ans. Bon, disons 20 ans. 20 ans, je pense que 20 ans, on a des enfants à 20 ans, ensuite on est grand-père à 40 ans, arrière-grand-père à 60 ans, ça fait 20 000 ans. Mais depuis quand existe l'homme sur la Terre, en tout cas l'homme, Homo sapiens, Adam, ça fait quoi, peut-être aller allant jusqu'à 10 000 ans en arrière, je suis très large. Bon, alors ça fait 12 000 ans. Alors il en reste encore pour aller jusqu'à 20 000 ans, si le Seigneur ne revient pas avant. C'est c'est toute l'histoire de l'humanité. Voilà, la miséricorde de Dieu s'exerce pendant toute l'histoire de l'humanité. Et elle s'exercera encore, en tout cas, de notre vivant et du vivant de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants. Et l'apôtre Paul rappelle que Dieu est le Père des miséricordes. Il est celui qui exerce sa compassion. Et il nous demande aussi à nous d'être miséricordieux, comme c'est Jésus qui dit, « Soyez miséricordieux ou compatissants comme votre Père est miséricordieux. » Et c'est une condition essentielle d'exercer la compassion, d'exercer la miséricorde pour obtenir la miséricorde de Dieu. Alors j'aimerais vous relire encore quelques versets dans Exode, chapitre 34, ce que je viens un peu de citer, au verset 6 et 7. Exode 34. Versets 6 et 7. L'Éternel passa devant lui, devant Moïse, en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité » ou en miséricorde. On peut traduire soit par fidélité. D'ailleurs, c'est un mot très riche qu'un seul mot français ne peut pas décrire complètement. On peut le traduire, ce mot hébreu, par fidélité, même tendresse, compassion, bonté, clémence et même grâce. C'est cela, la miséricorde de Dieu. L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. 3, 4 générations, et à côté, 1000 générations de compassion et de miséricorde de Dieu. Alors je suis sûr que cette miséricorde de Dieu est là présente, elle continuera à s'exercer. Et si j'arrête mon ministère pastoral maintenant, au moment où je dirai « Amen », enfin pas tout à fait, mais quand même, enfin, je ne sais pas si je l'arrêterai complètement, c'est une façon de parler, mais en tout cas de façon officielle, enfin même pas officielle, mais je dirais de façon administrative. Et je crois que le Seigneur en tout cas continuera à bénir cette Église, continuera à utiliser les dons qu'il a donnés aux uns et aux autres, et je crois que le Seigneur continuera aussi à m'utiliser, comme il utilisera à utiliser chacun d'entre vous. Alors, ai-je reçu la vocation pastorale ? Je crois que c'est après coup qu'on peut le dire, et pas avant. C'est un privilège. Ça a été un privilège pour moi d'être pasteur. D'une certaine façon, en tout cas en ce qui me concerne, c'est le plus beau métier du monde. J'ai passé ma vie professionnelle à étudier la Bible. C'est quand même extraordinaire, à parler du Seigneur, à prier, à être utilisé par le Seigneur pour construire son Église, pour entrer dans son œuvre. C'est un privilège extraordinaire. C'est pas toujours facile, mais aucun métier n'est facile. On a tous nos difficultés dans notre vie professionnelle. Mais je crois que si nous sommes tous appelés à être chrétiens, car nous sommes tous appelés à être chrétiens, nous sommes tous élus, nous dit l'apôtre Pierre. Hein, et appelés à être chrétiens, c'est appelés à servir le Seigneur. Je crois que tous aussi dans notre profession, nous pouvons le vivre comme une vocation, c'est-à-dire quelque chose que nous offrons au Seigneur et que nous offrons aux hommes. Et je crois que si nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs, nous sommes tous appelés à exercer des dons dans l'Église, mais nous sommes tous appelés à exercer aussi une profession dans le monde. Et comme disait Martin Luther King, le balayeur, s'il balaye en pensant qu'il balaye pour le Seigneur, eh bien, il balayera de façon que les gens diront « Mais c'est formidable, qu'est-ce que cet homme balaye bien ?» Et ça fera une différence. Je crois que dans notre travail, dans notre profession, nous pouvons aussi servir le Seigneur et le faire comme étant une véritable vocation à laquelle le Seigneur nous a appelés. Et puis, tout à l'heure, on citait aussi, c'est Cathy qui citait ce verset de Romains 12, « Offrir nos corps en sacrifice ». C'est vrai que ça fait penser à ces victimes expiatoires de l'Ancien Testament qui sont brûlées sur l'autel. Mais je crois que cela veut dire tout simplement s'offrir complètement, complètement au Seigneur. Se donner complètement comme une victime qui est offerte complètement au Seigneur. Et je reviens sur ma conversion où le Seigneur m'a mis au pied du mur. Et je crois que si nous ne nous offrons pas complètement au Seigneur, le Seigneur ne peut pas nous utiliser véritablement. Alors, on peut le refaire aussi, je l'ai refait d'ailleurs à plusieurs reprises dans ma vie, dans la prière, dans une prière de consécration, dans une prière où on se place devant Dieu, où on sent le Seigneur qui est comme présent, où sa présence est là. On s'offre à lui, on se dit « Seigneur, je t'appartiens, c'est à toi de m'utiliser ». Et bien que le Seigneur utilise encore chacun d'entre nous, je crois que nous avons tous à offrir nos corps en sacrifice, à être utilisés par le Seigneur pour que le Seigneur se glorifie jusqu'à ce qu'il vienne et jusqu'à ce que notre service sur terre soit terminé. Mais comme je le disais encore, je crois, dans la feuille nouvelle, même ceux qui sont âgés, qui peuvent dire « Mais moi, je ne peux plus servir », si vous pouvez servir, votre présence, vos prières sont précieuses. Et bien que Dieu bénisse encore chacun de nous et bénisse notre Église. Amen.